Salut, c'est Lucas, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Digression. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on avait prévu de parler de nos loisirs. On voulait avoir une discussion un peu légère sur ce qui nous anime à côté du travail, que ce soit nos films préférés, nos séries ou encore les jeux vidéo auxquels on joue. Mais très vite, on est parti sur autre chose. On a majoritairement abordé le concept de work-life balance, c'est-à-dire le fait d'avoir une vie équilibrée entre le travail et sa vie privée, et on s'est demandé si vouloir avoir une vie 100% équilibrée n'était pas finalement un peu néfaste pour certains individus. À un moment, je me suis même un peu lâché et j'ai frontalement attaqué un youtubeur très connu. Enfin bref, je te spoil pas et je te laisse découvrir ça par toi-même. Alors, sans plus de blabla, je te souhaite un très bon épisode.
J'ai pas des tonnes de loisirs en ce moment.
Ah ouais?
Non, mais tu vois, je me distrais, mais en fait, c'est aussi, ça dépend ce que t'appelles loisir et ce que t'appelles taf, mais je passe clairement la majorité de mon temps soit à dormir, soit à taffer, quoi.
Est-ce que plus le temps passe, plus la limite est fine pour toi entre le loisir et le taf?
Bah, depuis que je suis sur YouTube, ouais.
Ouais,
enfin, sur YouTube, sur Insta, on fait des podcasts et tout. Oui, c'est clair.
Et ça te pose problème au quotidien?
Bah, en fait, je pense que ça me pose plus problème parce que je me pose la question que ça n'est un problème.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, genre, je me pose la question pour justement pas faire de burn-out, pas aller trop loin et tout. Mais au quotidien, en vrai, je le vis plutôt pas mal, tu vois. Et pourtant, ça m'arrive d'avoir des comportements aussi toxiques que dans des métiers que j'ai pu avoir avant. Moi, c'est un des trucs qui fait que j'adhère pas mal au stoïcisme, c'est que j'ai vraiment l'expérience de j'ai vécu une situation et je l'ai perçue d'une certaine manière, je revis une situation identique, perçue totalement différemment. Et le fait d'avoir cette expérience, ça fait que bah, vraiment je me dis, ouais, il y a quand même un. Enfin, la manière dont on perçoit les choses joue un rôle prépondérant dans le ressenti qu'on peut avoir,
c'est
dans l'émotion.
Par rapport au plaisir que tu prends dans la tâche, par exemple?
Ouais.
Parce que moi, c'est vrai que je pense tout le temps au taf, tu vois. C'est pas pour autant que je taffe tout le temps. Et même la dernière fois, je parlais de ça avec mon père. Et je lui disais que ça fait très longtemps que j'ai pas déconnecté, en fait.
Ouais.
Parce que rien qu'ouvrir tes mails, ça s'appelle travailler dans notre milieu. J'ai le privilège, grâce à mon travail, de pouvoir partir à l'étranger. Mais par exemple, quand je pars 3 mois en Thaïlande, je bosse, en fait.
Ouais.
Je bosse et oui, en Thaïlande, évidemment, je suis au bord de la mer. Évidemment, je peux me faire...
Ah, donc c'est des vacances.
S'il y a la mer, c'est des vacances.
Je fais l'avocat du diable.
C'est ce que pensent plein de gens.
Ce que plein de gens disent.
Ouais, bonnes vacances. Mais du coup, en fait, ça floute toujours cette limite entre le loisir et le travail. Mais inconsciemment, moi aussi, il y a une plage. Je peux aller en week-end dans des villes de Thaïlande, donc c'est des vacances. Mais non, parce que je bosse. Et en fait, le truc, c'est que mon esprit a pris ça pour des vacances. Quand je rentre sur Paris... Je continue à travailler et en fait, on en vient à un moment où ça fait des mois que j'ai pas pris des vraies vacances où genre je
t'as juste pas travaillé
voilà.
Du tout.
Et je sais pas si ça va encore arriver. Je sais pas si c'est problématique en soi, à part à partir du moment où je me dis que c'est problématique. Genre des fois, je me demande, est-ce que c'est problématique ce que tu fais? Je sais pas, je réfléchis au truc, je me dis, je continue à avoir un bon équilibre avec ma famille, avec mes amis et tout ça en travaillant. Donc en vrai, à partir de ce moment-là, je pense...
Pourquoi pas... ouais.
Ouais, voilà. Juste le... Seul truc que je peux peut-être regretter, c'est que il y a des divertissements que je refuse entre guillemets pour pas trop tomber dans les excès. Je pense notamment, ouais, je pense notamment aux jeux vidéo.
Ouais, c'est la même chose.
Mais je pense que beaucoup de gens ont ça. Hein. J'ai entendu pas mal de gens parler des jeux vidéo comme ça parce que les jeux vidéo c'est très chronophage en fait. Ouais. Tu joues pas au jeu une heure par jour. Tu te connectes pas sur Call of ou Assassin's Creed ou GTA pour jouer une heure par jour et arrêter.
Surtout, tu perds toute notion du temps, en fait, quand tu démarres.
C'est
quoi.
Incroyable.
Mais un peu comme le taf. Hein.
Ouais.
Parfois,
mais
quand tu te lances dans une tâche, tu perds la notion du temps.
Les jeux vidéo, il y a tout un aspect aussi où tu peux vraiment être dans le flow en jouant aux jeux vidéo. Bon, en fait, moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils refusaient de me mettre la télé dans la chambre. C'est le genre de truc, quand t'étais petit, tu faisais des pieds et des mains, mais
ouais.
Aujourd'hui, t'es reconnaissant. J'avais la télé dans le salon et du coup, ils contrôlaient pas mal. À quel point je jouais.
Ils savaient à chaque fois
voilà.
Que je jouais. Quoi.
Mais en fait, mes parents, il y a des périodes où ils n'étaient pas là pour le boulot, où ils n'étaient pas là du tout.
Ouais.
Et je sais que j'ai déjà tapé des 12 heures de jeu par jour, tu vois. Il y a une distorsion du temps qui est incroyable quand
ouais.
Tu joues aux jeux vidéo.
Je pense que c'est le... Enfin, en vrai, c'est le plus gros problème, mais tu vois, on parle de jeux vidéo et je faisais le parallèle avec le taf. C'est un peu pareil, c'est toutes ces activités où justement, tu te retrouves dans un état de flow, tu ne vois plus passer le temps et potentiellement, du coup, tu loupes des choses importantes dans ta vie... Alors, les jeux vidéo, t'es pas. Enfin, tu vois, tu peux jouer 12 heures le samedi et quand même avoir une vie sociale le reste de la semaine. Mais je trouve que ça fait partie des trucs assez difficiles en fait à contrôler parce que c'est hyper addictif.
Exactement. Alors que tu peux totalement garder un rapport sain aux séries ou aux films. J'arrive totalement à avoir la même consommation qu'avant. Peut-être un peu moins, notamment les séries, tu vois, parce que les séries, tu peux encore une fois tomber dans le binge-watching.
Ouais.
Mais en vrai, une fois que j'ai fini le boulot, pour moi, c'est très important de couper totalement le soir et de regarder ma série ou mon film. Et ça, par contre, j'y arrive, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est important de garder des moments d'improductivité et de pas tout le temps être à vouloir optimiser tout ce que tu fais.
Ouais, je suis d'accord. Je sais que, enfin, moi, historiquement, j'ai eu une phase il y a quelques années où j'étais un peu en mode à essayer de tout optimiser tout le temps. Et en fait, c'est, tu vois, c'est espèce de tâches en arrière-plan dans ton cerveau. Et du coup, à chaque fois que je faisais un truc, je me demandais, et typiquement avec les jeux vidéo, est-ce que genre, il n'y a pas un truc plus productif que je pourrais faire à la place et c'est terrible parce qu'en fait, tu te mets à plus profiter de rien, tu vois. Dès que tu as un loisir, tu es en train de te dire que tu ferais mieux de bosser. Dès que tu es en train de bosser, tu te dis que tu pourrais bosser plus.
Et la mentalité optimisation, je la trouve géniale pour plein de trucs. Genre avoir une mentalité de mec qui sait optimiser les choses. Mais des fois, c'est un fardeau dans certains cas. Des fois, il faut juste la mettre de côté, quoi.
Ouais.
Moi, je suis toujours pour garder un équilibre, ne pas trop être dans les excès et tout. Mais quand même, il y a des fois où j'aimerais bien ne juste pas me poser la question, quoi. Genre, la dernière fois, j'ai rigolé tout seul à penser à ça. Évidemment, je pensais pas ça à premier degré, mais quand même un peu. C'était le 14 juillet, je suis allé voir un feu d'artifice. Et le feu d'artifice, en termes de sommeil, c'est un désastre.
Ouais.
À 23h, tu balances des je sais pas combien de décibels et je sais pas combien de lumière à ta rétine. C'est désastreux.
Ouais.
Et moi, je regardais le feu d'artifice, je me disais, c'est fou. Je suis quand même assez impressionné par la capacité autodestructrice des êtres humains, tu vois. Et je me suis regardé en train de penser à ça, et ça m'a fait marrer, tu vois. Mais quand même, il y a toujours cette petite mentalité d'optimisation dans ma tête, tu vois.
Ouais, tu parles de feu d'artifice, c'est un exemple sympathique, on va dire, mais enfin, c'est la même question avec l'alcool, avec la drogue, avec ouais. Tous ces trucs-là qui, à forte dose, sont extrêmement nocifs, quoi. Mmh. Le manque de sommeil, enfin... Mmh.
Pour pallier au problème de la suroptimisation, mon avis sur la question, c'est que c'est important de savoir, juste de savoir. Tu fais ce que tu veux des informations, mais de savoir. Je connais des gens qui boivent du café le soir. J'ai déjà été dans des conversations où je leur disais que c'était mauvais. Et ils l'ont mal pris. Moi, je leur ai dit, il n'y a pas de jugement dans tout ça. C'est juste scientifiquement pas bon. Je te dis ça, t'en fais ce que tu veux. La réponse, c'est toujours, ça m'empêche pas de dormir. Bah oui, mais ça s'appelle l'accoutumance, en fait. Moi non plus, le café, ça m'empêche pas de dormir. Mais bon, bref, il y a des études qui ont prouvé qu'au niveau des ondes cérébrales, t'as pas le même sommeil quand tu bois du café.
Ça t'empêche de bien dormir.
Voilà, exactement. Mais sauf que vu que ça, c'est pas...
Comme l'alcool, hein, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui se disent...
Après l'alcool, tu sens clairement l'alcool. Hein.
Oui, mais il y a plein de gens qui se disent, bah, j'ai dormi 12 heures, ça
ouais,
va.
Ouais.
Ils ont dormi 12 heures, efficacité 4 heures, tu vois.
Sauf que ça, factuellement, tu peux pas le prouver aux gens. Donc, ils te disent, oui, mais t'abuses avec l'optimisation. Je suis d'accord que certaines personnes ne poursuivent pas les mêmes objectifs que d'autres dans la vie. On prend toujours cet exemple, mais un Elon Musk qui travaille 120 heures par semaine, je suis sûr qu'il est bien au courant que dormir 3 heures par nuit, c'est pas bon pour lui. Mais il a d'autres buts dans la vie, tu vois.
Ouais.
Moi, je préfère, pour l'instant, en tout cas dans ma vie, avoir ce qu'on appelle la work-life balance. Et je préfère m'amuser de temps en temps, tu vois.
Pour moi, ça revient à parler d'intentionnalité, quoi. Il faut être conscient de ce que tu as envie de faire et du coup, bah, agir en conséquence. Le plus gênant, c'est le moment où, en fait, toi, intérieurement, t'aimerais, je sais pas moi, réussir à faire une carrière de dingue, mais qu'en fait, tu passes ta journée à jouer aux jeux vidéo,
ouais,
et l'inverse, tu vois. Mmh. C'est ça le vrai problème.
Mmh. Mais des fois,
si t'es pas aligné.
Mais des fois, tu vois, il y a quand même des zones grises. Moi, avec les jeux vidéo, je suis dans une zone grise. Je préfère l'exclure de ma vie. Mais des fois, je réfléchis peut-être à un système un peu où j'arriverai à avoir un process pour jouer au jeu et que ça bouffe pas trop ma vie. Partant du principe qu'il y a 24 heures dans une journée, je fais une liste des tâches que j'ai à faire et les jeux vidéo, ça passe malheureusement après, par exemple, voir mes potes, tu vois.
Ouais.
Donc c'est toute une question de hiérarchiser les choses. Et peut-être qu'un jour dans ma vie, les jeux vidéo, ça passera...
Avant ?
Ouais, avant sur ma liste, je sais pas, tu vois. Mais jusqu'ici, je préfère mettre ça de côté.
Et t'arrives pas à faire un truc, je te demande ça, parce que pour le coup, moi, j'ai réussi à le faire, mais je me doute que c'est pas toujours évident. Mais pendant très longtemps, moi, j'arrivais à... Et c'est pareil avec les séries, etc. C'est à me dire, pas de loisirs pendant la journée. Quand je dis pas de loisirs, c'est simplement de, voilà, pas de caler devant la télé, pas devant les jeux vidéo, pas de loisirs faciles,
ouais.
Immédiats.
Mais tu peux prendre plaisir dans le boulot et dans le processus.
Exactement. Tu vas justement taffer, en gros, la journée, ce qui ne t'empêche pas de t'amuser,
ouais.
Enfin, d'aimer ça. Mais juste te dire qu'il y a des moments pour chaque chose. Et typiquement, moi, j'arrive à réserver, et j'ai l'impression que toi aussi pour ça, les séries et les films au soir. Et les jeux vidéo, éventuellement le week-end.
T'as des consoles ?
Ouais, j'ai une PS4 et une Switch.
Ok.
mais que j'ai déménagé, enfin, qui sont plus chez moi là maintenant depuis la semaine dernière. Mais parce qu'en fait, j'y jouais très rarement et du coup, je me suis dit que ce serait plus utile ailleurs, tu vois. Mais en gros, avant ça, j'y jouais genre le week-end. Mais tu vois, ça, enfin, je jouais rarement plus de 2 heures un après-midi, un samedi après-midi ou un dimanche après-midi.
Et t'arrives à kiffer les jeux vidéo dans la mesure?
Bah, en fait, je pense que déjà, il y a une question de quel jeu vidéo.
Ok.
Genre, typiquement, je peux faire 2 heures de FIFA sans problème. Je vais
Ok.
pas me lancer dans un truc de 14 heures d'affilée et tout. Après, tu vois, par exemple, le dernier Assassin's Creed, j'y ai joué, mais je pense pas assez pour vraiment rentrer dans le jeu. Et du coup,
Voilà.
ça m'excite pas des masses
J'avoue
d'y rejouer, tu
qu'il
vois.
y a différents types de jeux vidéo. Un Assassin's Creed, ça se saigne en fait pendant
Ouais.
plusieurs heures. Et ouais, j'ai du mal à jouer
Bah,
aux jeux
c'est ce
vidéo
que
dans la
j'ai fait pour les
mesure.
précédents, tu vois. Les précédents Assassin's Creed, je
Ouais,
les ai
pareil,
adorés, je
pareil.
les ai saignés.
Ouais.
Mais celui-là, je m'étais déjà un peu fixé. Enfin, c'est même pas. J'aime pas trop, en fait, dans l'absolu, me fixer des règles parce que je pense que le problème quand tu te fixes une règle comme ça, c'est que du coup, ton premier réflexe, c'est de vouloir l'enfreindre. Alors que là, c'est plus genre un processus en mode, bah, les jeux vidéo, si j'ai envie d'y jouer, c'est le week-end. C'est plus genre j'inverse le truc. Au lieu de m'en faire une contrainte de tu ne joueras pas aux jeux vidéo, c'est tu peux jouer aux jeux vidéo le week-end.
Et le week-end, tu fais ce que tu veux.
Exactement.
Ok.
Et sachant que du coup, bah, factuellement, en fait, en vrai, je les ai saignés surtout pendant les confinements, parce que du coup, tu avais réduction de ton temps social, on va
Ouais,
dire, et
clairement.
même d'activités de l'extérieur et tout. J'arrive pas mal à compartimenter et à me dire c'est réservé à telle période,
Ok.
tel moment où tu vas, ou par exemple, genre, je sais que j'ai une semaine où je suis off total, bah, me dire, ok, c'est cette semaine-là où je peux faire ce truc, et si je l'ai pas fait, bah, tant pis, c'est pas grave. Parce que ce qui compense, c'est que comme tu dis, comme on priorise et qu'on sait ce qu'on préfère faire, bon bah ok, j'ai pas joué 4 heures à Assassin's Creed samedi après-midi, mais j'ai vu mes potes et je suis tout aussi content, tu vois. Enfin, plus content
Je sais
même.
même pas si aujourd'hui, avec la mentalité que j'ai, j'arriverai à jouer 12 heures d'affilée à des jeux vidéo.
En termes d'optimisation,
En
genre,
termes
t'aurais trop
de.
ce
J'ai
truc.
envie. Peut-être ça me saoulerait au bout d'un moment.
Genre ennui ou.
On parlait au début de ce podcast de distorsion du temps quand tu joues aux jeux vidéo. Je pense que je l'aurais plus actuellement. En fait, pour l'anecdote, j'avais acheté une PS4 avec FIFA à l'époque. C'est vrai que FIFA, c'est pas le jeu où tu passes le plus de temps
C'est
dessus.
assez répétitif.
Mais franchement, quand j'avais 14-15 ans, je pouvais passer des heures sur FIFA.
Ouais.
Mais là, j'ai acheté la PS4 avec FIFA. J'avais même acheté Assassin's Creed à l'époque, qui était Assassin's Creed Syndicate,
Ouais.
qui est en plus, je trouve, pas le meilleur d'Assassin's Creed. Et bref, que ce soit sur FIFA ou Assassin's Creed, je me faisais chier assez vite, en fait. Et je pense qu'en fait, j'étais juste plus trop fait pour les jeux vidéo, et je pense que ma manière de m'amuser avait bougé, en fait. Je m'amuse beaucoup plus avec des gens, je pense, déjà.
Tu joues avec eux, tu les manipules,
Ouais,
ouais.
depuis que j'ai lu Influence et Manipulation.
C'est qui déjà? C'est Dale.
Cialdini. Non,
Ah
non,
non,
tu
je connais
confonds
pas. Ouais,
avec Comment se faire des
How to
amis.
make friends
Ouais,
and. Ah
ouais.
ouais.
Influence et Manipulation, qui est un bon livre. Mais c'est marrant parce que tout le monde croit que c'est un livre de connard, de marketeur qui veut manipuler tout le monde. Mais le mec, à la base, c'est un psychologue qui a voulu écrire ça parce que lui, il se faisait trop manipuler, en fait.
Ouais.
Et il en avait marre. Et en fait, à chaque fin de chapitre, il écrit comment éviter ce
Comment
truc-là.
contrer ce problème,
Ouais.
ouais. Mais ça m'étonne pas parce qu'en vrai, enfin, c'est con ce que je vais dire, mais t'as un peu ce côté plus vendeur, je pense, quand t'appelles ton livre Influence et Manipulation que comment ne plus être une victime
Après en
du
anglais,
système, tu vois.
il a un nom moins dégueulasse. Hein.
Ah ouais?
C'est juste Persuasion, je crois qu'il s'appelle en
Ah ok,
anglais.
ouais.
Non, ou Influence. Bref, mais c'est pas Influence et Manipulation.
Ouais. Qui
T'imagines pas
fait
un
un peu
mec.
la secte.
Ouais. Enfin bref, pour revenir à notre propos, ouais, je valorise beaucoup plus les activités avec des gens, je pense.
Social.
Ouais. Et même quand je regarde une série ou un film, j'aime bien être avec des gens. Mais pourtant, j'aime toujours autant ça, tu vois. Et je trouve que c'est bien pour me déconnecter. C'est vraiment un moment où je pense à rien et je trouve ça vraiment important de penser à rien au moins 2 heures dans la journée.
Ou d'être concentré sur autre chose, non?
Ouais.
Quand tu dis penser à rien, en fait, c'est ne pas penser au taf et du coup.
Ouais, je sais pas, parce que des fois, justement, je disais qu'il n'y a jamais de vraies vacances, parce que tu peux toujours checker tes mails.
Ouais.
Quand je suis sur une série ou un film,
Ouais, t'es pas sur ton
la
portable.
règle, c'est un peu, je suis pas sur mon portable, quoi.
Ouais. Et cela dit, et du coup, je le dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez l'habitude d'utiliser votre portable pendant que vous regardez une série ou un film, ne le faites pas au moins une fois pour tester, c'est pas du tout la même expérience.
Et n'utilisez pas le mode x1,5 sur Netflix.
Tu
Ça, c'est un truc d'hérétique. Faites pas ça.
l'as déjà
Jamais de
fait?
la vie.
Ah, ok, tu
Jamais
le
de la
fais
vie.
pas.
Pour moi, il convient de hiérarchiser de façon les loisirs.
Surtout quand tu regardes un bon film,
Voilà.
t'as une vitesse, t'as un rythme, t'as genre
Voilà.
la volonté en fait du
C'est ça.
réalisateur
C'est ça.
quoi.
Vous inquiétez pas si vous êtes en train d'écouter ce podcast en x2, vous sentez pas mal. En fait, non, mais c'est vrai.
On va se mettre à parler super vite, comme ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qu'on dit.
Les contenus didactiques, voilà, tu viens saisir ce qu'il y a à saisir, mais les contenus artistiques, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on peut pas caler ce qu'on cale à YouTube ou au podcast sur les films et les séries. C'est pas possible pour moi.
Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a quand même des manières de consommer, parce que nous, on a tendance à regarder des vidéos en accéléré sur YouTube, mais parce que je pense qu'on arrive à un moment où, en fait, c'est tellement des idées qui nous sont familières que on n'a plus besoin potentiellement de faire comme certaines personnes qui regardent et qui vont prendre des notes, qui vont genre réfléchir à une idée particulière parce que c'est la première fois qu'ils l'entendent, etc. Je pense que nous, au final, ça fait partie de notre environnement de pensée. Je pense que si par exemple on se mettait à regarder des sujets qui n'ont rien à voir, sur lesquels on n'a aucune connaissance, etc., ce serait plus difficile, tu vois, de regarder en x2 ou en x1,5.
Ouais, sûrement.
Parce qu'on aurait besoin de faire des pauses, je sais pas moi, d'aller checker un mot sur Google parce qu'on sait pas ce que ça veut dire, ou je pense que c'est parce que c'est du contenu de dev perso en fait qu'on consomme en accéléré.
Ouais.
Mais parce qu'on a lu tous les livres qu'il fallait lire, enfin ouais. Tu vois, c'est ouais. On a les bases qui font que moi mais ça même... m'arrive encore de ralentir une vidéo parce que justement il y a, mais en général c'est parce que le créateur genre apporte sa patte, tu vois.
C'est ce que j'allais dire. Un YouTuber qui fait du fast cam, t'as pas besoin de regarder ça en fois. Un YouTuber qui vraiment fait un bon storytelling, qui est un très bon filmmaker, pour vraiment t'imprégner du travail de la personne, tu regardes pas en x2. Enfin, c'est mon avis, tu vois. Après, moi, j'aime bien m'inspirer des autres YouTubers et tout. Donc, pour moi, il y a vraiment un rythme. Mais qui plus est pour un film, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi Netflix, ils ont fait ça avec leur... Je sais pas.
Je pense que ça leur coûtait rien de le faire et ça faisait peut-être des gens.
Tu vois, ça donne des mauvaises habitudes aux gens, je pense.
Pour le coup, je suis surpris. Enfin, à mon avis, ça a été le cas et j'en ai juste pas entendu parler, mais je suis surpris qu'il n'y ait pas plus, tu vois, d'acteurs, de réalisateurs et tout qui se soient plaints en disant, en fait, vous dénaturez notre travail, quoi.
Je comprends encore une fois que tu veuilles saisir la moelle de certains contenus à but informatif, mais quand c'est artistique, bah, si ça t'intéresse pas, tu regardes pas, en fait. Tu regardes pas en x1,5. Tu prends le temps. C'est quoi, maintenant, si on se trouve qu'une scène est un peu trop longue, traîne en longueur, on va mettre en x1,5 jusqu'à la fin de la scène? Je trouve ça un peu bizarre. Ça pose une autre question. Au final, si on continue à mettre ces options-là un peu partout, tout le monde va avoir une expérience différente d'une œuvre, en fait. Si moi, j'ai regardé un film en 1,5 et toi en 1,25, on aura tous les deux une interprétation différente.
Mais est-ce que si tous les deux, on le regarde en x1, on va pas déjà avoir une interprétation différente?
Par rapport à quoi?
Par rapport au film, tu vois. On n'aura pas forcément la même interprétation... On n'aura pas forcément le même avis sur les éclairages, sur les décors, sur le scénario, sur les acteurs, le jeu, etc. Tu vois.
Ouais, mais au moins on aura consommé l'œuvre que le réalisateur nous a proposée. C'est un peu comme dans les discussions. Je vais te faire une réflexion que tu vas prendre d'une certaine manière. Une autre personne ne l'aurait pas prise d'une certaine manière. Bon, ça c'est la vie, tu vois. Mm-hmm. Mais au moins, on aura, entre guillemets, respecté l'œuvre de l'artiste derrière.
Et puis, je pense aussi que notre avis se basera sur la même œuvre. Parce qu'en fait, l'œuvre en x1 ou l'œuvre en x1,5, c'est pas la même œuvre. Donc je pense qu'effectivement, si on part de ce principe-là, si on ne voit pas la même chose, ouais, on ne discute pas de la même chose au final.
Typiquement, un bon exemple sur les films, c'est la bande originale.
Ouais.
Il y a des bandes originales qui deviennent cultes. T'imagines si t'avais regardé Pirates des Caraïbes en x1,5? Par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, il y a certains youtubeurs qui mettent tout le temps la même musique dans leurs vidéos. De temps en temps, ça m'arrive d'écouter leur vidéo en x1, et je me dis, ah, c'était ça leur musique pendant tout ce temps, et je les entends tout le temps en x2, en fait.
Ouais.
Donc, tu comprends juste pas le truc, tu vois.
Ouais,
après,
oui,
dans le cadre des vidéos YouTube, moi, je prends moins ça au sérieux, mais dans le cadre des films, je trouve que ça doit être plus pris au sérieux.
Tu penses pas? Enfin, moi, je fais le parallèle, en fait, entre ça et les livres, dans le sens où ça fait quelques années maintenant qu'il y a une infinité d'applications de résumés de livres.
Ouais.
Même tout le monde propose des résumés de livres. Et les applications, elles présentent même genre le top 3 citations, les 4 idées du livre. Enfin, en gros, ils te résument 800 pages en 3 minutes de lecture. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, tu auras peut-être les idées, genre la substantifique moelle du livre, mais tu n'auras pas eu l'expérience que l'auteur a envie de transmettre et la nuance de ce qu'il a envie de transmettre. Et je pense que c'est un gros problème parce que j'en parlais déjà la semaine dernière, mais le problème que je trouve apparaît souvent, c'est que les gens ont tendance à extrapoler une chose, par exemple d'un livre, parce que ça fait partie de tous les résumés qui parlent de ce livre, ou d'un auteur de philosophie, etc. et effacent totalement la nuance, parce qu'en fait, ils l'ont pas lu, ils n'ont pas eu l'expérience de la nuance, ils ont juste pris, enfin, tu vois, c'est con, mais par exemple, des citations genre « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », enfin, des citations sorties de leur contexte, et où on te dit « l'auteur a voulu dire ça », alors que non, en fait, quand tu lis l'œuvre intégrale, c'est pas le propos, quoi.
Ouais.
Et je fais le lien parce que je me dis, si tu regardes des films en x1,5, etc., bah en fait, peut-être que tu vas juste te souvenir de la scène d'action et de la scène de fin, quand le héros s'en sort, enfin, tu vois. Finalement, t'as un espèce de filtre qui fait que t'as pas eu toute l'expérience de l'œuvre.
Enfin, clairement.
Tu mets un filtre entre toi et la réalité, quoi.
T'as pas la ref, en fait, tout simplement. Non, mais c'est vrai, par exemple, il y a des réalisateurs qui aiment bien les films assez lents, assez longs. Par exemple, je sais pas, moi, si tu regardes un Tarantino, qui fait souvent des scènes avec beaucoup de discussions, entre guillemets, inutiles, un peu dans l'absurde, toutes ces choses-là. Tu regardes, par exemple, un Django Unchained de Tarantino, qui va durer 1h30 au lieu de 3h, avec des dialogues en x2. Ça sert à quoi de faire ça?
À l'avoir vu en 1h30 au lieu de 3h.
Et en disant, je l'ai vu.
Ouais,
et mais tu tires quoi comme plaisir de ça derrière? À part le « je l'ai vu », je peux cocher la case de « j'ai vu ce film ».
Je pense que la motivation n'est pas la même. Non, comme les gens qui lisent des résumés de livres.
C'est de la surconsommation.
De la surconsommation, mais c'est surtout de la fast consommation, quoi. C'est en mode « j'ai envie de tout lire, tout voir, tout avoir fait ». En vrai, c'est un peu un dérivé du FOMO, quoi. T'as tellement peur de rater quelque chose que t'essaies de tout faire, mais en version nulle. Enfin, je dis version nulle, mais tu vois... Ça peut être en accéléré et tout, mais enfin, c'est une version nulle de la réalité de l'œuvre.
Ça me fait marrer parce que j'avais un prof de français au lycée qui nous avait dit, je ne me rappelle plus des chiffres, il nous avait dit, écoutez, dans l'histoire de l'humanité, il y a X livres qui ont été lus. En moyenne, si vous lisez, si vous êtes un lecteur aguerri, vous lirez X livres. Et c'était vraiment genre 1000 fois moins, tu vois. Il disait, c'est attristant, ça rend triste, mais c'est comme ça. Et en fait, je trouve peut-être qu'on a perdu ce truc-là, en fait. On veut vraiment, on a de plus en plus de mal à se dire que, bah, il y a des trucs qu'on va pas voir, il y a des trucs qu'on va pas faire, il y a des trucs qu'on va pas écouter, et bah, c'est comme ça.
Ouais, c'est un réflexe de consommateur. Je veux tout voir, tout faire, tout consommer, en fait. Et forcément, quand tu tombes là-dedans, bah, tu profites plus, en fait.
Enfin, non.
T'es bloqué dans une situation où tu fais tout en accéléré, tout en x2, x4, x je sais pas combien. Juste, effectivement, alors enfin, ça dépend de ta vie, etc., mais pour pouvoir dire ensuite que tu l'as fait, tu l'as vu, etc., et potentiellement donner un avis alors que tu n'as pas vraiment vécu le truc, tu vois. Ça t'est arrivé, toi, de faire des... enfin, d'être justement dans cette situation où tu étais en surconsommation de plein de choses, plus pour rattraper, entre guillemets, ou...
J'ai un défaut, mais ça... Ouais, non, j'en ai... Ouais, j'ai qu'un défaut.
Si on avait 3 ou 4,
j'en ai seul. J'en ai qu'un seul.
Je les garde alors.
Dis pas ça en public, s'il te plaît.
Ah oui, pardon. Non, j'ai rien dit.
J'ai un défaut qui est un peu inverse à ça, mais qui revient un peu à la même chose, c'est de vouloir finir une œuvre, même quand elle me plaît pas, mais justement pour dire au moins je l'ai fait, quoi. Genre, c'est un peu ce truc de t'as accompli une tâche, comme dans un jeu vidéo, la jauge, elle est remplie, et t'as pas envie de casser la jauge, tu vois. Et moi, j'ai le problème inverse. Des gens qui conseillent de lire des résumés de livres, moi quand j'ai entamé un livre, c'est presque impossible que j'arrête.
Ouais.
À part s'il m'a vraiment fait chier.
Tu me dis ça avec les livres et pourtant avec les vidéos YouTube, où moi j'ai ce réflexe-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cliqué, je vais jusqu'au bout de la vidéo. J'ai beaucoup de mal à arrêter avant parce que je me dis, il y a peut-être quelque chose qui va se passer ou qui va justifier que la vidéo est bien, ou alors elle est bien et il n'y a pas de machin. Mais toi, tu m'as déjà dit que tu arrivais à partir avant la fin.
Ouais, j'arrive, mais c'est rare en vrai.
Et est-ce que, je sais que tu me l'as déjà dit en off, mais c'est parce qu'en gros, tu considères qu'il y a un peu une hiérarchie?
Ah oui, moi j'hiérarchise clairement les contenus.
Ouais.
Pour moi, le livre, c'est une des sources, si ce n'est la source ultime de savoir en fait. Donc quand j'ai un livre entre les mains, ou ma Kindle, hein, parce qu'on est, des minimalistes du 21e siècle, et bah... des Apple addicts. Je finis le livre en fait.
Ouais.
J'ai beaucoup de mal à l'arrêter.
Mes
yeux commencent à défiler en x2. Non, mais ouais, j'ai trop de mal à arrêter le livre parce que oui, je pense que c'est important de hiérarchiser les informations qu'on a et j'en parle souvent par exemple sur ma chaîne. C'est la diète d'information en gros et se dire que toutes les infos ne se valent pas en fait. Au même titre que l'anecdote de Tata Jacqueline sur je sais pas quelle information le dimanche ne vaut pas autant qu'un journal sérieux, bah les vidéos YouTube, je le dis en tant que personne qui crée sur YouTube, ça vaut pas autant que les livres.
Ouais.
Juste les personnes qui font des vidéos sur YouTube, on a le mérite d'avoir fait le travail en amont pour délivrer du savoir aux gens. Enfin, en tout cas, les personnes un peu dans le domaine de la vulgarisation au sens large, je dirais.
Ouais.
On a ce mérite-là, entre guillemets. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour passer des heures et des heures sur des livres. Et c'est OK. Chacun a son degré de consommation. Mais moi, ça me paraît impossible de consommer que du contenu YouTube pour me cultiver, entre guillemets. Mais c'est Ali Abdal qui donnait ce conseil débile, je suis désolé, mais dans une de ses vidéos, il disait, ouais, je sais plus, mais il disait, ouais...
Juste pour préciser, Ali Abdal, c'est un créateur sur YouTube anglais.
Qui est ultra, qui est grave dans l'optimisation, je l'apprécie pour beaucoup de points, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points où, selon moi, il fait fausse route. Et il dit que si tu lis la partie d'un livre, si tu lis un livre, et que tu penses avoir compris l'idée, tu la sautes. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'auteur, il va dire d'autres trucs, en fait. Enfin, là, il y a l'idée que t'as comprise, très bien, que t'as déjà vu dans d'autres livres. Mais après, il y a toute la fin de la partie. Et tu la sautes pas, en fait, ouais. Tu vois. Et pour moi, c'est débile de penser comme ça.
Surtout que je pense que... Enfin, c'est là, en fait, où se joue le talent de l'auteur. Et en vrai, j'extrapole un peu, mais le talent du youtubeur aussi. C'est qu'une fois que t'as saisi l'idée, bah, ça va être la démonstration.
Ouais.
C'est-à-dire que, oui, tu peux lire... par exemple, il y a plein d'auteurs et on parlait de Ryan Holiday la semaine dernière, mais dans ses livres, souvent, il démarre son chapitre en mettant une citation d'un auteur célèbre.
Ouais.
Et quelque part, c'est censé résumer le chapitre. Bon, bah, tu pourrais t'arrêter à ça. Et sauf que si tu lis pas la suite, tu lis pas l'histoire qu'il va te raconter, t'as pas vraiment saisi ce qu'il voulait dire et ce qu'il recommande ou ce dont il parle, en fait.
Pour aller plus loin, je pense que je suis le premier à critiquer les idées qui se répètent à travers les livres. On en a déjà parlé, même ouais. De toi à moi. Et t'es pas forcément d'accord avec moi sur ça, mais je pense quand même que c'est important qu'on te martèle une idée. Je suis pour dire que c'est bien qu'on te la martèle sur un livre, pas sur 10, hein, parce qu'il y a certaines idées qui sont tout le temps répétées. Et même si tu t'as pas fait plein de notes, même si tu t'en rappelles pas tous les jours, ça va faire partie, je pense, de ton identité profonde, tu vois.
Ton environnement de pensée.
Ouais, genre je sais pas, une idée par exemple selon laquelle il faut se concentrer sur le processus et non le but, j'ai pas fait des fiches pour me rappeler de cette idée. Plusieurs fois on m'a répété cette idée et l'auteur martelait ça, et je pense que c'est pas non plus non pertinent qu'il répète la même idée, parce que c'est aussi ça qui va faire que ça va travailler en arrière-plan.
Ça va infuser.
Tu t'en penses quoi?
En fait, je pense qu'il faut dissocier son conscient et son subconscient, c'est-à-dire que consciemment, oui, l'idée tu l'as, tu vois, mais je pense que tant qu'elle est pas justement infusée inconsciemment, bah, t'auras beau le savoir, en fait, tu le sauras que si on te le rappelle.
Mmh.
Et du coup, tu vas pas agir en conséquence, tu vois. Parce qu'au final, les trucs qui font que tu réagis de manière agressive quand tu te sens en danger ou ce genre de choses, c'est des réactions inconscientes. C'est pas des trucs que tu contrôles, tu vois. Quand quelqu'un, je sais pas, te bouscule dans la rue, tu n'as pas le temps, en fait, de te dire « Ah, il m'a bousculé, donc il faut que je machin, il faut que je fasse attention, etc. » Tu réagis. Et je pense que c'est un peu la même chose là-dessus, c'est-à-dire que consciemment, tu as l'impression que l'idée, c'est bon, tu l'as, mais en fait, deux jours après, tu n'auras plus rien à foutre de cette idée.
Ouais, c'est clair.
Tu n'agiras pas en conséquence, etc. Et effectivement, tu disais que j'avais pas tout à fait le même avis que toi sur le fait que ça pouvait être relou qu'un auteur répète sans cesse la même idée. Mais du coup, c'est un peu ce que je disais avant, c'est que pour moi, c'est là le talent de l'auteur, c'est que la manière dont il va le dire doit être pertinente. Tu vois, les auteurs ont plein de manières d'avancer une idée, de la rendre convaincante, pertinente, etc. Et je reprends l'exemple de Ryan Holiday, puisqu'on parlait de lui. Dans ses livres, il va raconter une anecdote historique d'un personnage célèbre et une partie de sa vie que tu connais pas. Parce que c'est vrai que les personnages historiques, tu connais rarement toute leur biographie. Et en gros, c'est un événement dans leur histoire particulièrement marquant qui démontre l'idée principale du livre ou du chapitre qu'il est en train d'écrire. Et je pense que plus ces histoires sont marquantes et plus elles vont te toucher, en fait, personnellement, plus inconsciemment tu vas intégrer l'idée. Et du coup, l'idée, en fait, tu n'auras plus besoin d'y penser consciemment. Tu agiras en conséquence de l'idée. Et c'est pareil avec YouTube. Plus le YouTubeur est bon, moins tu auras besoin
d'y
penser.
Après, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'il y a des couches
d'abstraction?
Ouais.
Ouais,
en termes d'idées. Par exemple, il y a des idées... Voilà, par exemple, processus supérieur à but,
ouais.
D'accord, tu l'as lu dans un livre bien martelé, c'est cool. En ce moment, je suis en train de lire un livre que tu m'as d'ailleurs conseillé, qui s'appelle Le cosmos à portée de main.
Ouais.
C'est un livre de vulgarisation de physique,
ouais.
Cosmologie. Crois-moi que j'ai lu 40% du livre, je crois. pour tout bien intégrer, il va falloir que j'en lise des livres. Mais bon, après, c'est pas grave, je prends ce qu'il y a à apprendre, je comprends pas tout, effectivement, je comprends pas tout. Mais... on peut pas mettre la cosmologie ou la physique quantique ou que sais-je encore sur la même ligne. enfin sur la même sur le même niveau d'importance que travaille et concentre-toi sur le processus, tu vois. Genre en termes d'assimilation de l'idée.
Bah, tu crois pas que c'est aussi parce que c'est pas ton domaine? Alors je pense, cela dit, que l'assimilation de travail, etc.
Je pense que tout être humain peut comprendre plus facilement les idées du stoïcisme que la théorie de la relativité.
Oui, parce que tu prends un truc de méga niche.
C'est ce que tu me dis, c'est pas ton domaine.
Non, parce que tu peux très bien... Enfin, tu vois, si tu prends un physicien, il aura aucun mal à lire ce livre parce que c'est écrit sous forme de roman, tu vois.
Ouais.
Mais... je pense que tu prends cette personne-là qui n'a jamais travaillé dans un bureau, qui n'a jamais entendu parler de productivité, etc. Elle ne sera peut-être pas forcément à l'aise avec un bouquin de dev perso. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas comprendre les concepts naturellement et du coup, elle aura du mal à intégrer les idées et même potentiellement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des mots très compliqués dans ces domaines-là parce que c'est déjà de la vulgarisation. Mais potentiellement, elle aura besoin de genre, approfondir certains termes parce qu'elle n'en a pas connaissance, quoi.
Ok, c'est intéressant.
L'autre jour, j'écoutais un podcast, enfin, c'était même pas un podcast, en fait, c'était un extrait, genre un réel sur Instagram de Stephen Bartlett. On va croire que je parle que de lui, mais...
Bah dis-le, t'es fan de lui, t'as des posters de Stephen Bartlett dans ta chambre.
Ah merde, c'est vrai que t'es déjà venu chez moi.
Ah,
ouais, je suis tombé sur un réel, et en gros, il y avait une invitée qui expliquait que le concept de work-life balance, donc genre séparé et...
Le fait d'avoir une vie équilibrée.
Ouais, exactement. Entre sa vie pro et perso, c'était un concept qui en réalité n'existait pas vraiment et que la seule raison pour laquelle certaines personnes parlaient de ça, c'est parce qu'en fait elles ont un problème dans l'une des deux parties. Et sur le moment, j'ai pas trop réagi et tout, et en fait ça m'a un peu travaillé et j'y ai repensé après. Et au moment où j'ai compris en fait l'idée qu'elle voulait dire derrière, ça m'a semblé évident. Dans le sens où effectivement, je prends mon expérience, tu vois, quand je bossais en tant que salarié, j'avais l'impression d'avoir un problème entre ma vie au travail et ma vie perso. J'avais l'impression de tout le temps travailler, mais parce qu'en fait, mon travail ne me plaisait pas. Et j'ai l'impression que le problème inverse, c'est quand ta vie perso ne te plaît pas, et du coup, tu travailles tout le temps. Donc en fait, dans les deux cas, tu as un problème en fait, avec soit ta vie pro, soit ta vie perso, qui fait que bah, tu compenses. Et j'ai trouvé cette idée assez intéressante, parce que généralement, quand on en parle, on a tendance à dire qu'il faut... faire des breaks, séparer, etc. Mais en réalité, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est que les deux soient sains et en fait d'être à l'aise avec les deux, tu vois.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que l'équilibre de vie diffère selon les personnes. C'est une réalisation que j'ai eue il y a quelques mois en écoutant un podcast de Lex Fridman. C'est pas le mec qui a la vie la plus équilibrée du monde. Voilà. Vraiment, si on s'en tient à la science, tu vois, et à ce qu'il faut pour être en forme, c'est pas le gars qui a la vie la plus équilibrée. C'est pour ça que je te disais juste avant que tu fais ce que tu veux des informations, mais il faut les connaître. Par exemple, lui, il fait du sommeil polyphasique en majorité toute l'année.
Okay.
Donc, le sommeil polyphasique, c'est vraiment, en gros, tu dors pas 8 heures d'affilée, mais tu dors de temps en temps dans la journée.
De manière fractionnée.
Et la plupart des gens qui essayent ça, ils finissent explosés. Ils disent que c'est pas fait pour l'être humain et c'est un fait. Mais lui, il dort comme ça et il a toujours l'air fatigué. Dans un podcast, je crois que c'est dans le podcast avec Matthew Walker qui a écrit Pourquoi nous dormons, qui est vraiment un livre sur la science du sommeil et qui explique vraiment académiquement comment bien dormir. Notamment 7 à 9 heures par jour, sinon tu vas développer tout plein de mauvaises choses. Et il explique à Matthew Walker que chacun a sa propre vision de ce qu'il veut accomplir dans la vie, et que certaines personnes, pour atteindre certains sommets, ils doivent faire des sacrifices. Et que c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre. Je parlais un peu d'Elon Musk tout à l'heure. Je pense que c'est à chacun de trouver sa vie équilibrée. Et moi, pendant longtemps, je pensais qu'il fallait dormir 8 heures, faire des deep work de 4 heures maximum par jour. Enfin, je m'en tenais pas mal aux règles dans cette idée de work-life balance. Mais en vrai, selon tes objectifs et selon la période, tu peux rééquilibrer.
Selon ce que t'as à faire,
et c'est
même
ça que tu veux dire.
Ouais.
Je sais pas, par exemple, si t'es dans un rush de vidéos sur une période, bah... qu'est-ce qui t'empêche de travailler 12 heures par jour et de dormir peut-être un peu moins? Par contre, tu vas rattraper ça les moments, par exemple, les périodes d'été où il y a moins de gens sur YouTube et tu vas un peu moins faire de vidéos.
Et je pense que c'est là toute l'importance de bien se connaître, en fait, et de connaître aussi un peu la saisonnalité de ce que tu fais, même de toi, comment tu fonctionnes. Si tu n'arrives pas, enfin, tu vois, si tu fais tout le temps des sprints où tu taffes comme un malade, tu t'épuises et tu fais ça chaque semaine. Typiquement, on va prendre un exemple très réel. Moi, c'est ce qui m'est arrivé ces récentes semaines, et là, ça fait 2 semaines que je me suis un peu calmé. Mais en fait, tu tiens pas. Il y a un moment où, genre, t'exploses en vol. Enfin, tu te mets à faire n'importe quoi. T'es plus du tout efficace, surtout. Ça, t'arrives à le corriger que parce que t'en as l'expérience et que tu le vois. Tu vois, si t'es que dans ton sprint, t'as l'impression que c'est normal, ça peut devenir dangereux parce que je pense qu'on a facilement une tendance à s'accoutumer et du coup on se rend plus compte de quand est-ce qu'on est tombé dans un extrême et quand est-ce qu'on n'y est plus. Surtout quand c'est du taf et surtout quand en fait ça se passe bien. Je sais pas, tu vois par exemple, tu vas beaucoup bosser, mais tes vidéos vont marcher. Et donc, en fait, ça va entretenir ce cercle où t'en fais trop.
Ce qui est cool quand t'es entrepreneur et ce qui est pas cool à la fois, en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux gérer tes journées comme tu veux. Ce qui est pas
tes
cool,
semaines même,
tes semaines, tes mois, tes années. Ce qui est pas cool, c'est que plein d'entrepreneurs, du coup, face à toute cette liberté, s'imposent une rigueur de fou, tu vois. Ça peut finir par être néfaste. Par exemple, je te donne un exemple très précis. Moi, j'ai remarqué avec le temps que l'hiver... j'arrive moins à me réveiller tôt. Ça s'explique assez facilement, le soleil qui se lève plus tard, etc. Et j'ai refusé ça pendant longtemps, en mode, non, non, il faut que je continue à me réveiller à la même heure toute l'année, je me couche à la même heure, je me réveille à la même heure. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus OK avec le fait, bah, les périodes d'hiver, dès que je commence à sentir que le matin, je suis vraiment explosé, je le sens tout de suite, hein. Le matin, je suis KO, je décale mon réveil d'une heure. Et je réorganise mes journées, tu vois. Et donc, c'est vraiment un désavantage, mais qui, des fois, tourne souvent à l'obsession, avec tout le temps la volonté de faire toujours pareil tout le temps, à toutes les périodes de la vie. Et comme tu le dis très bien, la vie est saisonnière, en vrai.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Et alors, tu réponds pas, mais est-ce que tu utilises un réveil, par exemple, pour te réveiller ?
Oui, mais mon rêve, c'est de pas utiliser de réveil. Mon rêve, c'est d'avoir un volet roulant, automatique, que je peux ouvrir avec la lumière du soleil.
Okay, mais
et me réveiller, tel un homo sapiens.
C'est d'avoir une manière physique de te réveiller quand même.
Ouais. Après, je suis sûr, en vrai, je suis sûr que si je mettais pas de réveil, je me réveillerais plus ou moins à 20-30 minutes près. Mais ces 20-30 minutes, je suis pas prêt encore dans ma vie à les perdre le matin.
Ok.
Genre le week-end, à part vraiment des fois où je me couche vraiment très tard ou que j'ai pas trop dormi la semaine, ça arrive. La semaine, c'est des fois tu dors moins, donc le week-end, je dois récupérer.
Sachant que si t'as lu le livre de Matthew Walker, tu récupères jamais vraiment.
Tu ne récupères jamais une dette de sommeil, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, je me réveille toujours plus ou moins à la même heure en vrai, parce que j'ai réussi
à t'habituer, ouais.
À m'habituer. Toi, okay. Tu me réveilles ?
Bah, je te demande ça parce qu'en gros, genre moi, ça doit faire maintenant, je pense, pas loin d'un an que je mets plus de réveil. Cool. Enfin, en gros, je me réveille naturellement, tu vois. Il y a des matins où je me réveille fatigué, d'autres matins moins, mais du coup, j'ai un peu adapté genre ma routine pour compenser les matins où je suis fatigué et les matins où je suis en forme. Et après, le truc que je m'interdis pas non plus, et c'est là toute la flexibilité aussi du truc, c'est que si je suis trop fatigué et que je sens que je suis capable de me rendormir, je m'autorise à me rendormir. Il se trouve que 90% du temps, enfin même au-delà de 90, je suis trop excité de me lever en fait. Moi, j'ai vraiment ce truc, genre, tous les matins. En fait, ce qui me réveille, c'est l'excitation de la journée.
C'est cool.
Le matin, et j'ai vraiment ça depuis tout petit, tu vois.
Réveillez-vous avec l'excitation de la journée comme Tom.
Non, mais en gros, c'est même pas parce que tu pourrais te dire le gars est à fond développement perso, il fait de la visualisation le soir avant de se coucher et du coup le lendemain il pense qu'à ça et machin. Même pas.
Ah bon?
C'est vraiment.
Tu fais pas des affirmations merde, positives.
Je suis démasqué. Je trouve ça tellement cool le temps éveillé que bah j'ai du mal parfois à dormir à cause de
mais
ça.
Mais toi, t'es pas un gros dormeur, non?
Non.
Moi, oui. C'est-à-dire que vraiment, si je me limite pas, par exemple, tu vois, l'heure naturelle à laquelle je me réveille, même sans réveil, il suffit d'un petit pipi et je retourne au lit et je peux allonger ma nuit de 3-4 heures, tu vois. Je pense que mon sommeil naturel se situe plus autour des 9-10 heures, en fait.
D'accord, ouais.
Plutôt qu'autour des 7-8 heures.
Ok, ouais.
C'est-à-dire que moi, j'arrive vraiment à dormir 8 heures par nuit. Les fois où je me couche un peu plus tard, c'est 7 heures, 7 heures et demie. Mais en dessous de 7 heures, je vais me réveiller, mais exploser, genre.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Ok, alors bah du coup, ok, je comprends mieux.
Si je suis à 7 heures par nuit, j'ai déjà tiré, tu vois, j'ai déjà tiré vers... Mais après, bon, je le sens pas dans la journée souvent. Je suis fatigué le matin, mais la journée, je le sens pas trop.
Ok.
Mais en tout cas, j'essaie vraiment, moi, de garder cet équilibre de vie pour...
Bah ok, hyper important parce qu'en vrai, enfin, tu vois, encore une fois, la semaine dernière, on parlait des émotions, mais genre le manque de sommeil, ça a un tel impact sur ta vie quotidienne, tes relations, etc.
Non, c'est clair.
Que c'est trop important, genre... Typiquement, je pense que tu seras d'accord, mais s'il y a genre trois leviers sur lesquels tu peux agir pour améliorer ta vie du jour au lendemain, c'est genre améliorer la qualité de ton sommeil, améliorer ton alimentation et faire un peu d'exercice.
Ouais,
quoi.
Exact.
C'est vraiment, tant que tu n'as pas fait ça, ça ne sert à rien de méditer, ça ne sert à rien de lire tous les jours, ça ne sert à rien de plus boire d'alcool ou je ne sais pas
après,
quoi.
Tu peux lire pourquoi nous dormons et comprendre à quel point tu détruis ta santé en dormant 5 heures par nuit.
Exactement. Ouais. Mais tu peux aussi l'appliquer après.
Tu peux l'appliquer.
C'est surtout ça qui est important. Ouais.
Moi, Pourquoi nous dormons, j'ai jamais eu un rapport conflictuel au sommeil, mais c'est vraiment un livre qui m'a fait me dire « Oui, je suis d'accord, que du biais de confirmation, ouais. Tu vois. » J'étais vraiment « Oui, je suis totalement d'accord, je vois très bien. » Ouais, moi, j'ai pas de problème. Ça m'a permis d'optimiser certaines choses et de me rendre compte de certaines choses. On en revient encore au fameux exemple du café. Du coup, maintenant, je conscientise le fait de pas en boire parce que c'est mieux comme ça, tu vois.
Mmh.
C'est
mieux. Attends, bois plus du tout.
Le soir, non.
Ah oui, le soir.
Mais pourtant, si j'en bois le soir, ça va. C'est pas ça qui va me tenir éveillé. Moi,
mais
si je peux m'endormir.
Mais t'en bois encore en.
Oui, j'en bois en journée. Ouais. J'en bois en journée.
Et genre, tu te fixes une heure à partir de laquelle t'arrêtes de boire du café?
Non. Mais je la connais, tu vois, et j'aime bien la connaître. Je prends l'info, j'optimise un peu, mais s'il y a des soirs, par exemple, en vacances ou quoi, où j'ai envie de me faire un café, je me le fais. Mais aujourd'hui, ça me paraît bizarre de m'en faire un le soir, c'est tout.
Ouais. Moi, je dois avouer que, alors, grosse méconnaissance de ma part, mais honnêtement, pour du coup avoir répandu l'information autour de moi, je me rends compte que clairement, j'étais pas le seul à l'ignorer. Mais je ne savais pas que dans les cafés décaféinés, en fait, il y a au moins 30% de café.
Il y en a assez pour te...
Pour te ruiner ta nuit. Et surtout, moi, je pensais que c'était des doses un peu négligeables, comme la bière sans alcool ou ce genre de choses, donc genre moins de 0,5%. Et en fait, non, dans un des cas, il y a entre 20 et 30% selon les marques de la dose d'une tasse de café normale, quoi. Donc, ce qui est en fait est significatif, selon l'heure à laquelle tu le prends, évidemment, mais qui n'est pas négligeable, quoi.
Mais de toute façon, le déca, c'est dégueulasse, donc...
Ah oui, t'es trop...
Dégueulasse.
Ah, moi, je pense que je m'y connais pas assez en café, de toute façon.
Autant boire un bon, vrai café, là, je sais pas.
En tout cas, c'est assez intéressant, je trouve, de réaliser que, genre, notre rapport au temps, au sommeil, à nos activités et tout, est assez saisonnier, au final.
À l'équilibre, de manière générale.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis aussi, de réaliser que, genre, l'équilibre, c'est pas forcément 50-50.
Ouais, c'est clair.
Et puis, ça dépend de chacun.
C'est marrant, au début, dans ce podcast, on allait parler des loisirs.
Ouais.
Et je pense que ça s'est senti au début, mais en fait, on a totalement digressé sur autre chose. En fait, on n'est juste pas capable de parler d'amusement, en fait.
On n'a pas de loisirs, en fait.
On est des gourous de la productivité et du travail.
On n'a pas de loisirs et on résout le problème en se faisant croire que notre travail, c'est un loisir.
On se fait croire qu'on aimerait bien jouer aux jeux vidéo, mais rien du tout, en fait.
Ouais, exactement.
Rien du tout, on préfère travailler. Non, plus sérieusement, on fera peut-être un épisode sur nos passe-temps, enfin, de manière assez intelligente, je pense, enfin, comme on essaye de le faire, même si, bon, Tom n'est pas le plus intelligent de tout le monde, mais bon, c'est pas grave.
C'est pas ce qui est le plus évident
pour
moi.
C'est pas grave. Mais en tout cas, si ça vous intéresse d'avoir un épisode plus sur nos loisirs à côté du taf, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux ou que sur nos réseaux, en fait, parce qu'on ne peut pas commenter sur les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas. Tom, je reviens à toi. Est-ce que tu as des recommandations cette semaine?
Ouais, j'ai une recommandation d'un mec qui fait des réels sur Instagram, qui s'appelle American Baron. Et en gros, il fait des petites vidéos. Il joue plusieurs personnages dans la même vidéo. Et ce qui est trop bien fait, c'est qu'en général, il aborde genre des sujets un peu métaphysiques, un peu philo et tout, de manière sarcastique, ironique, amusante. Et il arrive à incorporer une espèce d'ambiance dans des vidéos, encore une fois, c'est des réels, donc ça fait une minute maximum, quoi. Et c'est vraiment super sympa et souvent assez drôle. Donc,
ok, cool.
Grosse reco pour lui.
Ok.
Et toi, une petite reco, Lucas, cette semaine?
Ouais, ma reco cette semaine, elle est pas très nouvelle. Je vais recommander un drama, une série coréenne, parce que bon, j'essaie de faire la propagande sur les dramas coréens autant que faire se peut.
Squid Games.
Non. Si vous avez aimé Squid Game, franchement, vous allez aimer, c'est Vincenzo. C'est un drama dans lequel un Italo-Coréen qui faisait partie de la mafia revient en Corée pour régler ses comptes. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je suis atroce pour résumer les films, les séries, les dramas. Donc allez voir Vincenzo, c'est sur Netflix.
Et il y a beaucoup de saisons qui sont sorties déjà ou c'est genre quelques épisodes, première saison?
En gros, les dramas coréens, c'est souvent un one-shot avec, en général, c'est 16 épisodes. C'est le format très classique, mais celle-là, elle dure 20 épisodes. C'est assez long, mais l'histoire est très cool.
Et c'est des épisodes longs?
C'est assez long, ouais.
Genre,
c'est une heure et demie,
1h20. C'est des mini-films.
C'est assez long à regarder, mais c'est très cool. Et regardez pas en 1,5, ça se fait pas, on fait pas ça sur Netflix. Donc voilà pour ma reco.
Tu regardes en langue originale?
Ouais, en coréen.
En VO?
Ouais.
J'ai
essayé un moment d'apprendre
sous-titré
le coréen.
Sous-titré coréen?
Non, sous-titré français. Je suis pas assez fort encore. J'ai essayé d'apprendre le coréen, j'ai arrêté parce que c'est trop dur, mais je m'y remettrai avec une prof plus sérieusement, je pense. Mais bref, c'est peut-être le sujet d'un autre podcast.
Ok, c'était très cool d'enregistrer cet épisode avec toi, comme d'hab.
Comme d'hab, Tom. C'est un plaisir d'être avec toi toutes les semaines. Sache-le.
Merci, ça me touche.
C'est une vraie déclaration.
Ça me touche beaucoup. Si cet épisode vous a autant plu que ça a plu à Lucas, n'hésitez pas à aller nous mettre une bonne note sur les plateformes de streaming.
Moi, à votre place, je mettrais 5 sur 5.
De toute façon, en dessous de 5 étoiles, franchement, perdez pas votre temps. Allez faire autre chose, il fait beau dehors, profitez-en.
Jouez aux jeux vidéo, au pire.
Squid Games. Merci beaucoup, Lucas, et puis bah, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était quoi ce Squid Games ?
On m'en bat les couilles.